catharisme.
Oui, ben, le catharisme, c'est un des fruits vénéneux de ces doctrines hérétiques. Parlons comme Irénée. Donc, il faut s'y préparer dans un continent. Le mouvement s'étend à toute l'Asie et il donne une plus grande importance à l'action des femmes. Alors, vous voyez, c'est vraiment...
C'est bien ce qu'on disait.
Parce que les femmes, en fait, les femmes sont, sont prophétesses dans cette histoire.
Ben voilà.
Alors, évidemment... Ce mouvement va rencontrer des résistances ou ça à Rome, où il est combattu. Alors on ne sait pas très bien pour quelle raison il va être combattu, si c'est à cause de son féminisme, ou son prophétisme, ou son millénarisme, ou de son etc. Enfin, il est combattu. Mais vous voyez, c'est quand même une. À l'époque, le millénarisme, c'est vraiment une doctrine qui est encore très ouverte. Et par exemple, Tertullien va se rallier à cette doctrine, au millénarisme, et puis avec tout ce qui va avec. Tandis qu'à Rome, le pape Éleuthère, qui est le dernier de la liste que nous donne Saint-Irénée, lui demeure dans l'expectative. Vous voyez, il est pas, il sait pas trop. Donc, vous voyez, le montanisme est un rameau, on pourrait dire hétérodoxe, de ce christianisme asiate. On se souvenait que les quatre filles du pas du docteur March, mais de les quatre filles du diacre Philippe sont des prophétesses. On voit ça dans Acte 21, je crois bien. Le Papias, là, dont on a des fragments, enseigne le millénarisme. Mm-hmm. Et en plus, Montan est quatuor décimant, donc il est typiquement, c'était, vous vous souvenez qu'il y avait eu un conflit entre le pape et je ne sais plus qui, peut-être Polycarpe, au sujet de la date de Pâques. Et donc les Asiates tenaient la date fixe du 14 Nisan, donc ils pouvaient tomber dans la semaine. Alors que les ecclésiastiques, comme on dit, ceux qui étaient de l'Église, tenaient plutôt un dimanche. Donc, du coup, relativisant la lettre de l'Ancien Testament pour l'entendre selon l'esprit, hein, c'est-à-dire le premier jour qui est le huitième, qui est le jour de la recréation, voilà. Et finalement, c'est eux qui l'ont emporté. Mais par exemple, curieusement, les Celtes étaient aussi quatuor décimant.
Ils ont changé.
Et comme les Saxons devenus chrétiens étaient un petit peu plus belliqueux, ils ont amené les Celtes, après quelques défaites militaires, pour d'autres raisons. Hein, du coup, ce qui restait de Celtes, c'est passé au quatuor, enfin, à la date romaine que les Saxons avaient, avaient adoptée.
En même temps, quand ils sont devenus, quand ils sont devenus plus romains, c'était simplement une affaire de la date de Pâques et de la tonsure.
Oui,
sinon, le reste,
sinon il n'y avait pas beaucoup de. Il n'y avait pas beaucoup de différence. Alors, donc son exaltation, parce qu'il devait être un peu exalté quand même. L'a conduit à provoquer les autorités romaines et à aller au-devant du martyr. Ce que, justement, les ecclésiastiques, qui cherchent à l'époque la coexistence avec les autorités romaines, voyaient d'un mauvais œil. Vous vous souvenez que, dans la lettre des martyrs de Vienne et de Lyon, on critique celui qui va retomber, enfin, qui va se dérober au martyr, c'est celui précisément qui était allé le chercher sans qu'on le lui demande rien. Donc la grande idée des chrétiens de l'époque, c'est on ne cherche pas le martyr, mais on ne le fuit pas s'il nous tombe dessus. Et là, vous voyez, Montan est exactement le contraire, c'est-à-dire il va au-devant du martyr. Alors, ce n'est pas un hérétique à proprement parler, mais ça va le devenir. Dans la mesure, enfin, disons, c'est pas un hérétique à proprement parler, parce que toutes ces doctrines sont encore assez ouvertes à son époque, première moitié du IIe siècle. Et peu à peu, l'Église va prendre position, et ceux qui vont être ses partisans vont devenir des hérétiques dans la mesure où ils vont s'accrocher à des doctrines que l'Église finira par considérer comme étant fausses. Alors, en tout cas, c'est un témoin au IIe siècle, de presque début du IIIe avec Tertullien en Afrique, de tendances et de pratiques archaïques qui sont liées au christianisme asiatique. Donc voilà un petit peu deux hérésiarques. Alors maintenant, grand B, des réponses orthodoxes. Alors c'est ce que les patrologues appellent les ecclésiastiques. Les ecclésiastiques, du coup, sont les pères de l'Église qui vont répondre à partir de la grande Église, si l'on veut. Alors le premier, c'est le plus connu aussi, je pense, c'est Saint Irénée de Lyon. Alors, Irénée est né de parents chrétiens, entre 135 et 145 à peu près, on ne sait pas très bien, 135 et 140. Il est le disciple de Saint Polycarpe de Smyrne, celui dont on a vu, vous vous souvenez, le martyr, le récit du martyr, dont il recueille aussi l'héritage johannique, donc cet héritage un peu asiate. Alors il vient à Lyon et on sait qu'il était presbytre en 177, au moment de la persécution.
Il vient à Lyon, donc où est-ce qu'il était avant?
Il était en Asie. Et il va porter la lettre du martyr, la lettre qu'on a lue la fois dernière, je crois bien, ou il y a deux fois, à Rome. Donc la lettre, vous savez, la lettre des communautés de Vienne et de Lyon. Donc c'est lui qui en était le porteur. Il la porte à Rome. Il deviendra évêque plus tard. Et il mourra vers l'an 200 à peu près. Alors on le célèbre en rouge, mais en fait on n'est pas certain qu'il soit mort martyr. En fait c'est Saint Jérôme qui dit qu'il était martyr, mais il est le seul à le dire. Et on n'a pas d'autres confirmations. Alors, il a écrit plusieurs ouvrages. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'Epidexis, ou démonstration de la prédication apostolique. Et après une petite introduction, il va traiter de la théologie de l'histoire du salut, une première partie, Dieu et la création, le péché de l'homme et la miséricorde de Dieu, et l'accomplissement du salut par Jésus-Christ. Voilà, on pourrait dire que ça, si vous voulez, c'est comme l'économie du salut, hein, l'histoire du salut. Dieu qui crée, l'homme qui tombe, et Dieu qui va le relever et qui, au dernier temps, le relèvera en Jésus-Christ. Donc, chapitre 4 à 42 de cet ouvrage. Puis, il y a une deuxième partie chapitre 43 à 97 qui est la vérité de l'histoire du salut à partir des Écritures. Donc, il reprend la doctrine en la fondant sur les Écritures. Alors il va par exemple parler de la préexistence du Verbe, puis de son incarnation. Il va étudier l'accomplissement des prophéties relatives à Jésus dans l'Ancien Testament. Et il va montrer comment le christianisme est l'accomplissement de l'Ancien Testament, disons des prophéties messianiques. Et puis il y a trois petits chapitres qui servent d'exhortation à la fin, qui répondent aux trois chapitres de l'introduction. Donc voilà, on peut dire, c'est une présentation de la doctrine chrétienne telle qu'elle existe en gros au milieu du IIe siècle, et moins de manière apologétique, donc on ne s'adresse pas vraiment à des païens, à des hérétiques, mais plutôt comme théologie fondamentale pour donner les bases de la foi chrétienne à des chrétiens qui sont déjà chrétiens. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est pour ça que j'ai appelé ça les premiers théologiens, parce qu'ils sont plus simplement tournés vers l'extérieur pour convertir les païens, les juifs, ou défendre le christianisme d'accusation, mais ils sont juste là pour exposer la foi chrétienne, la fonder et la développer, en quelque sorte. Alors, mais l'ouvrage le plus important, c'est l'Adversus Hereses. D'ailleurs, tous les extraits que j'ai mis d'Irénée sont dans le Contre les Hérésies, qui est, alors lui, un ouvrage plutôt apologétique, pour le coup, qui est un ouvrage orienté contre les gnostiques. Et le vrai nom, c'est « Exposé et réfutation de la gnose au nom menteur ». En 5 livres, rédigé probablement vers 180. Vous voyez, « Exposé et réfutation ». Donc c'est très honnête, hein, parce que c'est pas un coup de petite phrase comme aujourd'hui en Twitter, 140 lignes, hein, caractère. C'est on expose d'abord la pensée de l'adversaire, puis on la réfute. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on connaît la pensée de l'adversaire, parce que je vous dis, autrement, on n'aurait jamais eu les documents. Alors, les premiers et deuxièmes livres réfutent la prétendue gnose, tandis que les livres 3 à 5 exposent la vraie gnose. Alors, je rappelle que gnosis, c'est la connaissance, donc en soi, ce n'est pas un mot péjoratif. Alors, il expose la gnose authentique, ou croit-il-t-elle, puisque, en fait, il est millénariste. Hein, il a aussi quelques...
Enfin, quelques lacunes.
Quelques lacunes ou quelques casseroles. mais c'est seulement plus tard que l'Église prendra position clairement contre le millénarisme. Alors, d'abord, voyons la réfutation. Alors, au début, il expose sa méthode. Alors, sa méthode, c'est que globalement, la vérité s'atteste d'elle-même et il suffit de sortir l'erreur de ses fourrés, en quelque sorte, pour qu'elle devienne, vulnérable. Donc, au début, il dit, c'est les vaincre que d'exposer leur système. C'est comme c'est rendre inoffensive une bête malfaisante que de l'arracher au fourré pour la mettre au grand jour. Et c'est l'idée que prodeo larvatus, hein, c'est en avançant masqué que les hérésies finalement sont dangereuses. Mais dès qu'on commence à retirer les oripeaux dont elles se sont revêtues, ben elles paraissent quand même très creuses. Alors, donc c'est la méthode de d'Irénée. Alors, dans le premier livre, il va étudier l'hérésie de Ptolémée et exposer la regula veritatis, la règle de vérité, hein, confronter les deux. Ensuite, il va attaquer le valentinisme, la doctrine de Valentin, dont je vous avais lu des passages l'autre fois. Dans le livre 2, il s'en prend encore à Valentin, avec son plérôme, là, vous savez, tous ces éons, là, et puis ses spéculations mathématiques, son eschatologie, et d'autres thèses gnostiques. Dans le livre 3, il parle des Écritures comme fondement conservé par la tradition de l'Église. avec l'idée qu'il n'y a qu'un seul Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament, et non pas deux, que le Christ est sauveur et fils de Dieu, de ce Dieu-là, qu'il est incarné, et il conclut sur la tradition. Puis le livre 4 va justement mettre le doigt sur, enfin, démontrer l'unité, la complémentarité de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui est vraiment la doctrine attaquée par les gnostiques. Montrer comment il faut lire l'Ancien Testament comme prophétie du Nouveau, et que les paraboles témoignent justement de cet emploi par Jésus lui-même de l'Ancien Testament. Et enfin, dans le cinquième livre, il parle de la résurrection des morts. Hein, toutes les doctrines gnostiques, évidemment, se débarrassent de la matière. Hein. De l'identité du Dieu créateur avec le Père de Jésus-Christ, à partir... Et il reparle de l'eschatologie qui est présente dans la Bible. Alors, on peut dire que les apologistes, hein, donc la période un peu antérieure, pas de beaucoup, hein, avaient voulu concilier la raison avec la foi, mais la raison travaillant sur la foi peut conduire à des erreurs, exemple agnostique, et la mission que se donne saint Irénée est de fournir des limites à la raison. C'est précisément la règle de foi, la regula fidei, qui surplombe la raison. Daniel Hobbes dit « Saint Justin avait fait comprendre que la foi incluait la raison. Saint Irénée précise que la raison s'égare sans la foi. » L'art des formules. Hein. Saint Justin avait fait comprendre que la foi incluait la raison. Saint Irénée précise que la foi s'égare, que la raison s'égare sans la foi. Et en ce sens, on peut dire que Saint Irénée est un peu le fondateur de la dogmatique, hein, le premier grand théologien. Donc l'intelligence a besoin d'un guide, et ce guide, pour Irénée, c'est la tradition. Donc, ce ne sont pas des prétendus initiés, un savoir ésotérique, caché, mais ce que l'Église enseigne avec la garantie des évêques, donc publiquement, et de ces évêques dont on peut établir la liste jusqu'au commencement, il donne l'exemple de Rome, alors que les hérétiques ne se prêchent qu'eux-mêmes à partir de révélations plus ou moins privées dont on peut contester la vérité, la véracité. Donc, vous voyez, c'est exactement l'opposition entre un savoir caché, dissimulé, réservé à des initiés qui regardent d'un air supérieur toute la masse des imbéciles et des prétendus imbéciles, et de l'autre côté, l'enseignement public. Et ça nous renvoie. Irénée, il pourrait faire le choix du contraire. Mais justement, il va choisir la tradition publique représentée visiblement par les évêques à partir notamment de l'enseignement des Écritures, puisque le Christ le dit lui-même quand on lui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ta doctrine ?» etc. etc. Il répond « Mais j'ai enseigné ouvertement et publiquement dans le Temple. Si vous voulez savoir quelle est ma doctrine, interrogez ceux qui l'ont entendu, etc. » Donc il n'y a pas de savoir caché. Il y a un savoir qui est destiné à tous et d'une manière publique. Vous voyez, et ça c'est la grande idée de la tradition. Alors,